CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions que vous demandez, et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Depuis que le défi a été lancé aux jeunes du Canada, plusieurs étudiants de partout au pays ont participé dans l'effort d'encourager les jeunes électeurs à voter. Cet appel a été entendu par les étudiants de l'Université d'Ottawa également, dont la vidéo sur l'importance de voter est en train de faire le tour du pays. I worked in this building.
Et oui, les jeux sont faits le 6 juin prochain. Les Ontariens et les Ontariennes veulent autre chose. La première ministre Catherine Wynne, première ministre sortante, a jeté l'éponge hier. Elle dirige l'Ontario depuis 2013 en succédant au chef libéral Dalton McGuinty, emporté par les controverses impliquant son gouvernement. Et elle est devenue la première femme lesbienne déclarée à diriger la province de l'Ontario. 5 ans plus tard, son étoile a pâli et sa cote de popularité est la plus basse de tous les premiers ministres du Canada. Mais vous, qu'en pensez-vous du programme des 3 partis politiques de l'Ontario? Connaissez-vous vraiment leur programme et les enjeux pour l'Ontario? Aujourd'hui, rencontre avec 2 personnalités passionnées, engagées dans la francophonie ontarienne. Stéphanie Chouinard, professeure adjointe de sciences politiques au Collège militaire Royal Kingston en Ontario. Elle nous attend, elle nous écoute. Bien le bonjour. Monsieur Carole Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'association qui représente 600 000 francophones en Ontario. Il est l'ancien président de l'association des enseignants franco-ontariens. Et vous, avez-vous fait votre choix? Pour qui allez-vous voter le 6 juin prochain? Le 6 juin 2018, l'Ontario basculera soit vers l'extrême gauche ou l'extrême droite. Soyez-y, une émission spéciale. Élection Ontario 2018.
Soyons clairs, ces tarifs douaniers sont inacceptables. Au cours des 150 dernières années, le Canada a été le partenaire le plus solide des États-Unis. Ces tarifs douaniers nuiront aux industries et aux travailleurs des deux côtés de la frontière canado-américaine et perturberont les chaînes d'approvisionnement qui ont rendu l'acier et l'aluminium nord-américain plus compétitifs à travers le monde.
Il s'appelle comment? Il s'appelle comment ton ami? J'ai des amis.
J'ai des amis dans les villes.
Il s'appelle.
J'ai des amis dans les villes.
On t'y goûte miel, on t'y goûte fiel.
J'ai des amis proches ou lointains.
J'ai des amis dans tous les coins.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde,
bonjour.
J'irai aussi autour du monde,
là-bas,
voir d'autres êtres humains,
ailleurs,
ni plus ni moins.
RFI,
RFI,
on en fait tout un monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.potpourrishow.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Bonjour, 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 mesdames, messieurs, où que vous soyez à travers la planète. Et aujourd'hui, nous avons un grand revenant, Sloane Ballant, avant son départ, son envol pour Haïti. Est-ce que je pourrais vous accompagner, mon cher Sloane? Et bonjour à Stéphanie Chouinard, à Carole Jolin, Marcel Lynn, Monsieur Ledoux, qui est avec nous aujourd'hui. Sloane, ça va? Alors, étudiant stagiaire avec nous, madame, monsieur, et vous risquez de recevoir un appel de notre beau Sloane Ballant, madame, monsieur, qui va vous interpeller, qui va parler à votre cœur et votre générosité dans le cadre de notre campagne. Les amis de CUTFM, on compte sur vous pour garder la seule, l'unique émission en langue française en onde. Vous pouvez aussi l'appeler au 86 946 7000. Et attention, voyage pour deux, ça ou ça, Costa Rica, Costa Rica. Et oui, l'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera. Merci d'être là en compagnie de Monsieur Ledoux. Production, animation, votre serviteur depuis 30 ans, Eric Kader. Vous pouvez nous syntoniser, nous écouter sur www.cut.fm. Le menu de ce dimanche 3 juin, élection Ontario 2018 oblige. Les électeurs ontariens veulent du changement, mais lequel? Quels sont les enjeux francophones de la campagne? Les trois grands partis politiques ont répondu à 14 questions posées par l'AFO. 14 questions. Pourquoi 14 questions? Et oui, l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, au sujet des affaires francophones. Et les francophones en quête du changement, oseront-ils, madame, monsieur, voter pour Doug Ford? Et si le prochain premier ministre ontarien ne parlait pas français? Et qui sont ces aînés francophones qui votent coûte que coûte? Et les jeunes, mon cher Sloan, à l'université là-bas, est-ce qu'ils votent? Est-ce qu'ils parlent des élections? Surtout les jeunes francophones et les immigrants. Nos invités aujourd'hui, nous sommes chanceux, madame, monsieur, Carole Jolin, président de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, bonjour. Stéphanie Chouinard, jeune professeure adjointe au département de sciences politiques du Collège militaire royal du Canada, chaire canadienne de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Très intéressant. Et merci à ceux et à celles qui ont déjà contribué à notre campagne de levée de fonds cette semaine. Merci, merci mille fois. Et oui, vous avez encore une fois cette semaine pour donner, faire vos dons. Vous pouvez appeler Sloan, il est avec nous aujourd'hui uniquement pour répondre à vos appels 416-946-7000 ou envoyez-nous un petit message à popourri@cut.fm et dites-nous aussi ce que vous pensez de l'émission qui est là à votre service, madame, monsieur, service de la communauté francophone depuis 30 ans. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Merci. Ah, merci, merci. Wow. Mon cher Sloan, merci, 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 merci. Ok, ça va, ça va. Ils sont nombreux, hein. Mais Sloan, vous avez beaucoup d'amis, hein. Ah, c'est... wow, wow. Quelle belle soirée au Musée royal de l'Ontario vendredi soir. Vous savez, en 35 ans, mon cher Sloan, depuis que je suis là, dans ma petite carrière de 35 ans, je n'ai jamais vu une soirée pareille. Des DJ, jeux de scène, jeux de lumière, des kiosques, restos, boissons à gogo, un public divers, de tous âges, hein, du beau monde. On se croirait dans une soirée de mode. Ambiance très conviviale, c'était, mon cher Sloan, la fièvre du vendredi soir au Musée royal de l'Ontario. Je dis bien le Musée royal de l'Ontario qui se transforme à une grande discothèque. La fièvre du vendredi soir, madame, monsieur, à ne pas rater. Il y en a encore d'autres vendredis. Là, vendredi prochain, d'ailleurs, vous allez assister à quelque chose de très, très spécial. Le 8 juin, le thème sera, après le lendemain des élections, il faut bien s'amuser, n'est-ce pas? Le mois national de l'histoire autochtone en compagnie d'artistes autochtones contemporains et des groupes rock ontariens influencés par tant de rythmes effrénés du punk et ceux du rock classique. Si vous voulez être parmi nos invités VIP, contribuez, donnez-nous un petit quelque chose, n'est-ce pas, pour garder l'émission en onde. Bravo donc à toute l'équipe du Rhum et surtout cet accueil chaleureux. Des gens qui sont venus s'asseoir à notre table. Sloan, il y a cette fille qui me dit « Oh, j'habitais à Ottawa maintenant, je suis à Toronto et je veux apprendre le français. » J'ai trouvé ça formidable. Bravo, bravo, madame, monsieur, et merci encore de cet accueil chaleureux et pour nos invités et l'équipe de CUTFM. Et oui, nous passons à... Oh. Élection. Ontario. C'est bientôt.
Bonjour,
le
citoyen.
Bonjour.
Bonjour, le citoyen. Bonjour. Bonjour, bonjour,
citoyens. Allons, enfants de la démocratie, c'est un jour pour aller voter. N'oublions pas que la tyrannie par les urnes peut s'imposer à la jeudi.
Bonjour, citoyens.
Bonjour,
citoyens.
Bonjour,
bonjour,
bonjour.
Selon notre petite enquête, les électeurs ontariens veulent du changement, mais lequel? Les trois grands partis politiques ont répondu à 14 questions posées par l'AFO au sujet des affaires francophones. Les francophones en quête du changement oseront-ils voter pour Doug Ford? Et si le prochain premier ministre ontarien ne parlait pas français? Qui sont ces aînés francophones qui votent coûte que coûte? Eh oui, le gouvernement fédéral aussi a déclaré cette semaine d'aider le Québec, madame, monsieur, croyez-le ou pas, l'Ontario et le Manitoba à faire face aux besoins d'hébergement temporaire des demandeurs d'asile irréguliers, plus élevés dans ces trois provinces. Et le Québec recevra ainsi 36 millions de dollars, l'Ontario 11 millions et le Manitoba 3 millions de dollars. Cette annonce fait suite aux doléances du Québec dont le gouvernement avait menacé Ottawa en avril dernier d'arrêter d'accueillir dans ses quatre centres d'hébergement temporaire au Québec. Qui sont ces aînés francophones qui votent coûte que coûte? Eh oui, statistiques à l'appui, les aînés sont nombreux à voter. En Ontario, 78% des personnes âgées de 65 ans à 74 ans ont exercé leur droit de vote lors des dernières élections fédérales de 2015. Le taux de participation était beaucoup plus anémique chez les Ontariens âgés de 25 à 34 ans, avec 55%. Et oui, exercer son droit de vote a plusieurs effets positifs sur les aînés, nous dit-on. Et oui, au dire de la professeure spécialisée en vieillissement à l'Université d'Ottawa, Martine Lagacé, et elle dit, je cite, « Ne serait-ce que leur plan psychologique, aller voter pour une personne âgée, c'est bon pour son estime d'elle-même. Mais vote-t-on pour les mêmes raisons lorsqu'on vieillit ?» La tension monte, madame, monsieur, après la décision des États-Unis d'instaurer des taxes douanières visant ses alliés, laissant planer l'ombre d'une guerre commerciale. Le Canada a été l'un des premiers partenaires à riposter concrètement en annonçant des taxes de 16,6 milliards de dollars canadiens sur les produits américains, qualifiant ces taxes d'inacceptables. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a estimé qu'elles étaient un affront au partenariat de sécurité existant de longue date entre le Canada et les États-Unis. La chancelière allemande Angela Merkel s'est pour sa part alarmée d'une escalade qui nuira à tout le monde. Pour le président français Emmanuel Macron, grand ami de Donald Trump, cette décision est une erreur selon lui. Et cette décision est illégale. Il a également confirmé l'intention de l'Union européenne de riposter. Cette guerre commerciale est, à mon avis, dit-il, le début d'autres épisodes dramatiques entre les États-Unis et ses alliés. Selon un rapport de l'UNESCO, plus des deux tiers des 90 langues autochtones parlées au Canada sont menacées. Mais comment faire pour protéger ces 90 langues? La ministre de Patrimoine canadien Mélanie Joly ferait des langues autochtones canadiennes des langues premières du pays plutôt que des langues officielles. Très intéressant. Mais qu'est-ce que cela veut dire, des langues premières? Pour la ministre Joly, elle veut reconnaître les langues autochtones comme étant un droit fondamental en vertu de l'article 35 de la Constitution. Et si on commençait à rendre obligatoires les langues autochtones dans nos écoles? Qu'en dites-vous, madame, monsieur? Êtes-vous pour ou contre? Nous attendons vos commentaires. popourri@cut.fm. Et oui, en Espagne, rien ne va plus. Rajoy, chassé, le socialiste Sanchez prend le pouvoir avec l'appui d'une majorité hétéroclite. Lui promettant un mandat compliqué, le socialiste Pedro Sanchez est devenu vendredi chef du gouvernement espagnol en poussant vers la sortie le conservateur Mariano Rajoy, coulé par un scandale de corruption. En France, alors que le ministre français de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vient de distribuer à toutes les écoles un guide pratique destiné à assurer le respect de la laïcité, la stupéfaction fut complète lorsque le 12 mai dernier, tenez-vous bien, Myriam Poujtou s'est présentée voilée dans une rue de Paris pour répondre aux questions des journalistes de la chaîne de télévision M6. Cette jeune femme, dans la vingtaine, portant le hijab, n'était nul autre que la porte-parole de la section de l'Université Paris 4 de l'Union nationale des étudiants de France. Oui, l'UNEF, ce grand symbole de mai 68, dirigé à l'époque par le gauchiste Jacques Sauvageau, qui fut arrêté le 3 mai 1968 et devint l'un des principaux leaders de la révolte aux côtés d'Alain Gaismard et Daniel Cohn-Bendit. Cette histoire continue à faire polémique en France, même jusqu'aux grandes instances de l'État français. Eh oui. Eh oui, avez-vous voté, mon cher ami? Hein? Moi, je suis allé faire mon devoir de citoyen. Allez, 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 sans brouhaha, c'était très très beau de voir tous ces bénévoles en action. Au terme d'une campagne électorale qui a davantage donné lieu à une confrontation de personnalités que d'idées, les Ontariens semblent déterminés à déloger Catherine Wynne cette semaine lors de l'élection provinciale. Et oui, après 15 ans de règne libéral, tout indique que les électeurs veulent du changement. Mais lequel? À 4 jours de l'élection en Ontario, Catherine Wynne a jeté l'éponge. Elle croit que son parti ne formera pas le prochain gouvernement. Et elle a aussi appelé aux électeurs à voter pour le plus de députés libéraux possible pour éviter un gouvernement progressiste, conservateur ou néo-démocrate. Elle était au bord des larmes, la pauvre, lors d'un point de presse hier à l'école élémentaire francophone Jeanne Lajoie à Toronto. Pourquoi elle était à une école francophone, d'après vous? Intéressant. Et elle a dit, je cite, « Le 7 juin, les électeurs vont élire un nouveau gouvernement. Je ne sais pas si les électeurs vont choisir, mais c'est leur choix. Mais je suis assez certaine que ce ne sera pas moi. Vendredi, je ne serai plus la première ministre de l'Ontario. La raison pour laquelle je suis ému, c'est qu'il s'agit des enfants derrière moi, de leur avenir et du type de province dans laquelle ils vont vivre. » Je rappelle, madame, monsieur, que la popularité des libéraux est au plus bas dans les sondages. Certains gourous de la politique pensent même que les résultats de jeudi prochain pourraient avoir un impact sur les libéraux de Justin Trudeau. Enfin, il a 15 mois environ pour les élections fédérales. Eh oui, mais le malheur des libéraux ontariens ne fait pas forcément le bonheur des progressistes conservateurs de Doug Ford. Sous leur chef nouvellement élu, les conservateurs ont vu leur avance de plus de 20 points de pourcentage fondre comme de la neige au mois de mai. Alors que M. Ford a enchaîné les bourdes pendant la campagne, mal préparé lors des débats, le populiste de droite a mis à la poubelle la plateforme électorale adoptée par le parti sous l'ancien chef Patrick Brown, qui prévoyait équilibrer les finances publiques grâce à notamment l'instauration d'une nouvelle taxe sur le carbone. M. Ford a promis de baisser les impôts des Ontariens de 20% et de réduire les tarifs d'électricité de 12%. Il a promis de réduire les dépenses publiques de 4%, rendant le gouvernement plus efficace. Mais il a failli à sa promesse de produire un cadre financier crédible. À un point tel que même le chef conservateur fédéral, Andrew Scheer, a préféré garder ses distances par rapport à M. Ford. Si les conservateurs perdent ces élections ou se retrouvent avec un gouvernement minoritaire, tout le monde saura à qui faire des reproches. Monsieur Ford manque non seulement d'expérience, mais son style cowboy fait fuir les électeurs centristes, les femmes, que les conservateurs doivent rallier afin d'obtenir une majorité de sièges. À quelques jours du vote, le parti se retrouve maintenant nez à nez avec les néo-démocrates d'Andrea Horwath, et la forte concentration du vote néo-démocrate à Toronto et dans le nord de la province pourrait faire en sorte que les néo-démocrates gagnent plus de votes mais moins de sièges que les conservateurs. Il n'est pas non plus impossible qu'une vague néo-démocrate déferle sur l'Ontario jeudi prochain. On ne sait pas. La dernière fois que le NPD a formé le gouvernement de l'Ontario, en 1990, oui, j'étais là, ce fut un désastre. L'économie entrait déjà en récession avant les élections, forçant le premier ministre Bob Rae de recourir à des déficits énormes afin de réaliser ses promesses. Les entreprises ont fui la province et son équipe de ministres et de députés inexpérimentés mettaient constamment le gouvernement dans l'embarras. Afin de réduire le déficit, Bob Rae a imposé des jours de congé sans solde aux employés de la fonction publique, ce qui a provoqué une révolte au sein de son propre parti, qui se voulait le champion des travailleurs et des syndicats. Il est facile d'imaginer qu'un scénario semblable puisse se produire si Mme Horwath était élue première ministre jeudi prochain. Avec ses promesses d'augmenter les dépenses et les impôts, le NPD ontarien joue avec le feu économique Et même Madame Haworth risque de se retrouver avec un conseil de ministres formé de néophytes. Le 7 juin, immigrants, francophones, femmes, membres des groupes, associations LGBT, et vous, les auditeurs, auditrices, qui croyez au bon sens, à la politique du bon sens, à l'égalité des droits de la personne, vous devez réfléchir, bien réfléchir, avant d'aller voter. Donner une forte majorité au Parti conservateur ou NPD risque de conduire la province à un désastre. Le 7 juin, aux urnes, citoyens. Oups. Nous avons Monsieur Robert Ledoux avec nous. Ça va? Vous savez qui vous écoute en ce moment, Monsieur Ledoux? C'est Madame Cinéma, la fondatrice de Ciné Franco, Marceline, qui a besoin de vos conseils. Alors, comme ça, vous êtes à la recherche d'un conseiller pour votre petit-fils, un conseiller en orientation. Vous êtes déjà passé à un conseiller en orientation, oui, Sloan? Alors, Manetio Serge, Monsieur Ledoux, à vous la parole.
Bonjour.
Bonjour, madame. Je suis bien au centre d'information et d'orientation.
Oui.
Pour les jeunes.
Oui.
Ah, très bien. Je voudrais parler à un conseiller d'orientation.
D'accord. Ne quittez pas.
Je vous remercie.
Oui.
Oui, bonjour, madame.
Monsieur.
Vous êtes conseillère d'orientation?
Oui.
Voilà. Je vous appelle, madame, parce que mon petit-fils est en terminale à Arras.
À Arras?
Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation.
Oui.
Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup...
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas...
Ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit
tout
ça...
Tout s'effondre?
Et oui, il nous dit que...
Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur.
Pardon?
C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est Bac plus 5.
Ma femme et moi, ça m'effondrait.
Alors, si vous êtes effondré à Bac plus 5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème.
Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation... Pour lui parler en tête à tête et lui expliquer évidemment que ce n'est pas...
Que ce n'est pas...
Convenable.
Que ce n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation?
Voilà, c'est ça. Donc je vais me permettre de vous le passer.
J'espère que vous plaisantez, monsieur.
Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone.
Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable.
Madame, ce n'est pas un métier...
Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant.
Peut-être, vous avez
je
tout à fait raison, mais
je ne pense pas que
vous...
je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable.
Madame.
À partir du moment où c'est son choix, je pense que
mais
c'est un
n'est
bon choix.
Mais ce n'est pas son choix, il a été conseillé par un mauvais conseiller
il
d'orientation.
Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation,
mais
bien
oui.
sûr. Mais bien
oui,
évidemment, monsieur.
Mais la preuve.
Mais la preuve quoi?
Votre collègue, quand
oui.
même. A conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation.
Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier.
Un
et
mauvais.
Il a eu... Comment?
Un mauvais.
Un mauvais conseiller.
Vous n'auriez pas fait ça, vous.
Ben, pourquoi je l'aurais pas fait?
Bon.
De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation.
Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez?
Vous plaisantez?
Pardon?
J'espère que vous plaisantez, monsieur.
Non.
J'espère
mais...
que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non. Bah... Ah oui, monsieur.
Madame,
vous demandez
je suis...
combien je demande? Mais je crois que vous plaisantez, monsieur.
Madame.
Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça à... Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur.
Bon, ben oui, mais...
Ah oui, je suis profondément choquée.
Bon,
demandez
là...
quoi? Je sais pas.
Mais vous avez...
Vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur.
Bon, alors écoutez, madame. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier.
Mm-hmm.
Je suis ancien douanier. Je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait
mais
lui permettre...
Mais peut-être que c'est pas son but, monsieur.
Écoutez-moi. Je voulais que mon petit-fils... fasse un métier d'avenir.
Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur, vous qui savez donnez-moi un métier d'avenir, monsieur.
Trafiquant de drogue.
Trafiquant de drogue.
Oui, madame.
Vous voulez que tout le monde devienne trafiquant de drogue?
Pardon.
Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue.
Oui, madame.
C'est pas vrai. Non, vous plaisantez.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Et justement, notre partenaire en santé, Reflet Salvéo, organise un groupe de discussion afin d'identifier vos besoins et vos priorités dans le but d'apporter des solutions adaptées. On vous invite à partager vos expériences, préoccupations, mercredi le 6 juin, cette semaine, à 18h, 250 rue Dundas West, bureau 305. Si cela vous intéresse, veuillez contacter immédiatement marine@refletsalvéo.ca, marinaire, M-A-R-I-N-E-R, @refletsalvéo.ca ou aller sur le site de Reflet Salvéo pour savoir. Les frais de transport en commun seront remboursés et un repas vous sera servi le mercredi 6 juin. Reflet Salvéo organise un groupe de discussion.
CIUT-FM continues to be the sound of your city. Of course, we can't do it without your generous support. Our spring membership drive starts on June 4th, but donate before then and you'll be eligible for numerous early bird prizes, including a bike courtesy of Urbane Cyclists, tickets to see Mavis Staples live at Massey Hall, and more. Visit www.ciut.fm to donate.
CIUT 89.5, Toronto.
Et oui, le 24 juin, nous ferons de la musique, la fête de la musique, madame, monsieur, vous donne rendez-vous le 24 juin. Il y aura plusieurs invités à travers le monde, des artistes, des gens de la région de Toronto, du Canada, et aussi des personnalités qui seront avec vous. Je garde tout le secret pour nous. Le 24 juin, émission spéciale, 37e édition de la fête de la musique, à ne pas rater sur Popourri Show. Et oui, là nous entendons les sons et les bruits de plus grands défilés, je pense, de l'Amérique du Nord chaque année. La marche des fiertés à Toronto, Toronto Pride, attire plus d'un million de visiteurs. Et cette année, le 17 juin prochain, Potpourri, chaud et fier de participer à la fête de la diversité sexuelle en proposant des émissions, rendez-vous avec des têtes d'affiche et membres engagés de la communauté LGBTQIA. Oui, en partenariat avec plusieurs artistes ici de la région de Toronto. Peut-être nous aurons Jezebel Bardot, qui ne la connaît pas maintenant, la grande diva très connue ici à Toronto dans les clubs, les boîtes de nuit LGBT, boîtes de nuit gays. Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec nous avant le 10 juin, popourri@cut.fm, 17 juin, Popourri participe à la fête de la diversité sexuelle avec une émission spéciale.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Écouter est la plus grande des qualités. Écouter les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct. Et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Et oui, nous irons voter, tout le monde, en chantant « Citoyens aux urnes ».
Alors enfants de la démocratie, c'est un jour pour aller voter. N'oublions pas que la tyrannie par les urnes peut s'imposer à la jury. Aux urnes citoyens, aux urnes citoyens, aux urnes, aux urnes citoyens.
Qui a dit quoi? Qui a dit quoi cette semaine? Vu et lu sur le site de Radio-Canada cette semaine. Et si le prochain premier ministre ontarien ne parlait pas le français? Et mon invité de répondre, et je cite, quelqu'un qui ne parle pas français, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune habileté à comprendre les enjeux des francophones en Ontario. C'est notre invité qui a dit ça cette semaine, madame, monsieur, et je vous demande de l'applaudir immédiatement pour la première fois à l'antenne de CUT FM. Voilà. Et elle est invitée pour la première fois à notre émission. Elle est professeure adjointe de sciences politiques au Collège militaire royal à Kingston, en Ontario, depuis 2017. Ses recherches portent sur les régimes linguistiques, les droits des minorités et des autochtones et le rapport entre droit et politique. Elle enseigne dans les domaines de la politique canadienne, de la politique comparée et de la géographie politique. Ça fait beaucoup de politique. Elle a aussi publié plusieurs recherches et documents, a reçu aussi plusieurs prix. Et nous avons le plaisir, madame, monsieur, d'accueillir professeure Stéphanie Chouinard. Bonjour.
Bonjour à vous.
Ça va?
Oui, merci, vous-même.
Les gens sont très curieux de savoir ce que vous avez dit cette semaine, ce que le site de Radio-Canada a publié. Pouvez-vous nous expliquer, quelqu'un qui ne parle pas français, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune habilité à comprendre les enjeux des francophones en Ontario. Avez-vous des preuves?
Certainement.
Oui?
Ben oui, certainement. Si, bon, de prime abord, il faut quand même reconnaître que d'avoir un chef de parti qui parle le français, c'est très bien et c'est une belle marque de respect envers la communauté francophone de l'Ontario. Mmh. Par contre, si on regarde dans l'histoire assez récente de l'Ontario et de l'Ontario français, il y a plusieurs victoires pour la communauté francophone qui ont été octroyées par des premiers ministres qui ne parlaient pas le français. On peut penser notamment au premier ministre Bill Davis, qui a été le premier ministre sous lequel le gouvernement a adopté la loi sur les services en français. On peut aussi penser au premier ministre Peterson. On peut penser, malgré son bilan assez mitigé là, pour la province de l'Ontario, à Mike Harris, qui a été le premier ministre qui a mis en place les commissions scolaires francophones, les conseils scolaires francophones en Ontario. Donc, je crois que d'avoir quelqu'un à la tête du gouvernement en Ontario qui parle français, c'est très bien. Mais il faut aussi reconnaître que quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue française, mais qui a bien su s'entourer et qui se fait bien conseiller par son équipe, dont certains membres pourraient être des membres de la communauté francophone et qui apprend à connaître les enjeux de la communauté francophone en Ontario, pourrait aussi très bien servir cette communauté-là.
Qu'est-ce que vous diriez au chef du Parti conservateur et néo-démocrate? Quel genre de conseiller est-ce que vous leur conseillez, justement?
Donc, ben, si je regarde, par exemple, le questionnaire que l'Assemblée de la francophonie ontarienne a demandé aux trois grands partis de remplir en vue des élections pour tester un peu leur connaissance sur la communauté franco-ontarienne et de voir quel type de promesses on peut s'attendre de ces trois partis-là, eh bien, le Parti néo-démocrate semblait très bien connaître les enjeux. On sait qu'il y a des champions de la communauté francophone au sein du caucus néo-démocrate, et ça depuis plusieurs années.
Entre autres, Monsieur Bisson.
Gilles Bisson, Madame Frangelina, qui avait, il faut quand même le rappeler, là, proposé à maintes reprises des projets de loi privés à Queen's Park visant la création d'une université de l'Ontario français. Donc, le Parti néo-démocrate là, semble avoir des champions au sein de son caucus. Et donc, le fait que Madame Horvath ne parle pas le français, ça ne signifie pas qu'elle ne comprendra pas, qu'elle ne sera pas bien conseillée en matière d'action gouvernementale vis-à-vis de cette communauté linguistique-là. Du côté des progressistes conservateurs, il y a un peu plus de manque à gagner. Donc, les réponses au questionnaire étaient somme toute assez troubles, manquaient d'approfondissement un peu au même titre que la plateforme progressiste conservatrice en règle générale pour cette élection-ci. Et donc, de ce côté-là, bon, restera à voir si quelqu'un comme Amanda Simard, par exemple, dans Prescott-Russell, dans l'Est ontarien, sera élu. Mais ce serait quelqu'un qui pourrait conseiller le premier ministre, qui pourrait éventuellement devenir là une championne du fait français en Ontario auprès du gouvernement.
Le Parti libéral, je pense, historiquement, a toujours été plus proche des francophones parce qu'il y avait toujours un plus grand pourcentage de francophones au sein de leur équipe, n'est-ce pas?
Oui, il y a certains bastions de la communauté francophone. On peut penser à Ottawa-Vanier, par exemple, qui a été dans le giron libéral depuis plusieurs années. C'était la circonscription de Madeleine Meilleur. Et donc, Madame Nathalie Desrosiers, qui l'a remplacée depuis peu, s'est aussi fait une avocate sérieuse pour la communauté francophone en Ontario. Donc, il y a certains bastions libéraux, effectivement, là, qui ont bien sûr représenté la communauté francophone jusqu'à maintenant. Malheureusement, ces bastions-là sont présentement en difficulté. Le 7 juin, ça reste impossible en ce moment-ci de prédire qui devrait remporter ces sièges-là là, à Queen's Park.
Et si on adoptait une loi obligeant les chefs des partis politiques de parler les deux langues officielles du Canada, pensez-vous que je rêve en couleur ce matin?
Je crois qu'à la lumière des intentions de vote pour le 7 juin, on ne risque pas d'avoir un gouvernement qui serait ouvert à cette idée-là. Je crois que ce serait difficile de faire ça en Ontario au simple regard du fait que même au Canada, qui est un pays officiellement bilingue, alors que la province de l'Ontario ne l'est pas, on ne retrouve pas une telle loi. On sait que par la force des choses, un chef de parti qui ne saurait pas maîtriser les deux langues officielles aurait une bien mince chance de remporter une élection. Le simple fait que la province de Québec détient encore un bon montant de sièges au Parlement canadien, et donc un candidat qui ne saurait pas parler français, qui ne saurait pas représenter son parti parmi les Québécois, mais aussi parmi les différentes circonscriptions francophones, là, n'aurait qu'une très mince chance de remporter. En Ontario, selon moi, on est encore loin de ce type de mesure-là.
Mon invité, madame, monsieur, aujourd'hui, professeur adjoint de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada à Kingston, professeur Stéphanie Chouinard. Vous savez que moi, je vais retourner un peu le fer dans la plaie, comme on dit, pour voir un peu au Québec les politiciens qui ne parlent pas nécessairement bien l'anglais. Et d'ailleurs, il y a plusieurs médias qui aiment provoquer un peu leur auditoire. Et je vous demande d'écouter un montage qu'a fait un de nos collègues au Québec, comment ils perçoivent les politiciens québécois qui ne parlent pas très très bien la langue de Shakespeare. Et là, nous entendons dans un premier temps la chef à l'époque du Parti québécois, Pauline Marois, que vous avez peut-être connue, n'est-ce pas?
Oui, du temps où elle était première ministre du Québec, notamment.
Alors, elle voulait devenir la chef d'un nouveau pays, parce que vous savez, à l'époque, le Parti québécois misait sur un Québec indépendant. Nous l'écoutons.
Il faut bien comprendre que Pauline Marois est maintenant en position d'accéder au poste de premier ministre du Québec. Et cette position nécessite généralement une bonne connaissance de l'anglais, à tout le moins parler. Et Gérard Deltel s'est penché sur la qualité de la langue seconde de la chef du Parti québécois.
The richness. Pas facile de parler anglais. If we want to, to partage, to share, if we want to share this richness, we have to create this.
La chef péquiste a appris cette langue sur le tard, sans excuse.
And, but à mes yeux, he continues to be
Et jase en anglais avec ses enfants pour s'améliorer.
Je recommence. Je m'excuse, je suis très fatiguée ce matin.
Est-ce un handicap pour un chef politique?
I don't really change le Parti québécois.
Parfois, les journalistes sont appelés à quelques pirouettes.
What that will signify for us?
And si Pauline Marois conduit le Québec à l'indépendance, ne serait-elle pas handicapée devant les autres chefs d'État? Madame Marois donne l'assurance que les efforts porteront fruit.
I'm sure. Don't be inquiète.
No, madame, we are not inquiète.
Et oui, que pensez-vous de ça?
Bon, ben, écoutez, Madame Marois a quand même réussi à devenir première ministre du Québec. Donc, de toute évidence, pour la majorité des Québécois, ça n'était pas vu comme un si grand handicap. Il est certain que dans la sphère internationale, l'anglais, c'est la lingua franca, mais il faut quand même reconnaître qu'aux Nations Unies, le français est une des langues officielles. On peut bien rigoler avec les différents accents de nos représentants. Mais Mme Marois avait quand même gagné son pari à l'époque.
Oui. Vous savez, est-ce que un jour on pourrait avoir un pays où les Canadiens parleraient les deux langues d'une façon normale et être à l'aise aussi bien en anglais qu'en français? Parce que moi, je connais des amis ici, Canadiens, qui sont nés ici et qui parlent très 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 bien les deux langues officielles. Comment expliquer qu'une grande majorité de Canadiens n'arrivent pas à maîtriser le français?
Bien, il y a certainement un manque de ressources. Et ça, c'est quelque chose dont on entend parler surtout lorsqu'on regarde les ressources qui sont mises de côté pour les écoles d'immersion, par exemple. On sait qu'il y a une énorme demande du côté des écoles d'immersion, là, et ça, c'est d'un côté à l'autre du pays. Les écoles d'immersion débordent. Et pourtant, lorsqu'on regarde la qualité de l'enseignement de la langue française dans ces écoles d'immersion-là, ça nous fait un peu sourciller. Donc, il y a certainement une demande. Est-ce que les outils pour bien maîtriser la seconde langue est là? Ça reste un peu plus difficile. Il faut aussi comprendre que l'apprentissage d'une langue, ça n'est pas qu'une langue en tant qu'outil de communication. Pour bien maîtriser une langue, il faut aussi apprendre à connaître la culture. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui manque. Et on le voit très bien, par exemple, lorsqu'on regarde les grands galas canadiens en matière de musique, notamment, où les artistes francophones manquent à l'appel. Il y a vraiment là une on voit vraiment les deux solitudes qui ont des répercussions dans le milieu artistique, dans le milieu culturel. Et ça, il y a un manque à gagner de ce côté-là, très certainement.
Oui.
Et d'un autre côté, ben il y a encore des Canadiens pour qui l'apprentissage du français ce n'est pas quelque chose qu'ils souhaitent parce que pour eux, ce n'est pas utile. Ils préféreraient apprendre le mandarin ou l'espagnol. Donc, il y a encore des gens qui ne sont pas convaincus que l'apprentissage des deux langues officielles au Canada, c'est quelque chose d'utile, malheureusement.
Oui. Il y a une réaction d'une auditrice qui nous dit « Le problème des ministres unilingues va cependant dans les deux sens, monsieur. » Vous vous souvenez, Diane Leboutillier, une ministre canadienne francophone, a refusé en avril dernier de participer à une émission en anglais du réseau CBC au motif que son apprentissage de la langue de Shakespeare était toujours en cours. Une autre auditrice nous dit « Nous demandons de plus en plus à nos politiciens au Québec d'être bilingues, mais au fédéral, nous avons de plus en plus à faire avec des politiciens unilingues anglais et cela va de la Cour suprême du Canada jusqu'au vérificateur général. Encore la logique, deux poids, deux mesures. D'après vous, est-ce qu'il y a des anglos qui nous veulent du bien ?» Voilà la question qu'on nous pose aujourd'hui.
Ben, bien sûr. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça va de mal en pire. À la Cour suprême, notamment, les dernières nominations étaient des gens qui étaient bilingues. Bon, d'un autre côté, on peut certainement critiquer le gouvernement actuel qui avait appuyé un projet de loi privé visant à rendre obligatoire le bilinguisme des juges lorsqu'ils étaient dans l'opposition, alors qu'aujourd'hui, lorsque ces mêmes projets de loi reviennent, le gouvernement actuel refuse de les appuyer.
Et justement, il y a un article écrit par José Legault, un journaliste du Journal de Montréal l'année dernière, est titré « Requiem pour une langue de moins en moins officielle ». Et elle écrit « À voir aller le sort qu'on réserve à la langue française, entre autres dans la sélection des juges de la Cour suprême du Canada, ça sent en effet le requiem à plein nez. » Elle continue « Le français est pourtant l'une des deux langues officielles de la Fédération canadienne et la Cour suprême, son ultime tribunal de dernier appel. Le 25 octobre dernier, pour les gens qui ne sont pas très au courant de quoi qu'on parle, cela n'a pas empêché le projet de loi C-203 du député néo-démocrate François Choquette, loi modifiant la loi sur la Cour suprême visant à exiger des juges de la Cour suprême qu'ils puissent entendre des causes dans les deux langues officielles, d'être défait à la Chambre des communes dans un vote de 224 contre 65. C'est beaucoup ça, hein? Et parmi les 224, on comptait, tenez-vous bien, le premier ministre libéral Justin Trudeau, dont le père, le défunt ex-premier ministre Pierre Elliott Trudeau, était lui-même l'architecte de la loi sur les langues officielles. Et elle continue, elle dit, pendant ce temps-là, au Québec, on continue d'exiger d'être full bilingue pour des jobbins au salaire minimum. Cherchez l'erreur. Quelle est votre réaction de ça, cher ami?
Ah, ben écoutez, c'est certain que c'est malheureux que le gouvernement actuel fasse du bilinguisme à la Cour suprême. Un enjeu qui ne semble pas avec lequel on joue à la politique, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, quand le Parti libéral était dans l'opposition, le caucus libéral avait appuyé un projet de loi semblable à celui-là que M. Choquette avait mis de l'avant lorsque c'était M. Yvon Godin, qui était le député à l'époque de Acadie-Bathurst, qui avait mis de l'avant un projet de loi privé, M. Godin, qui était aussi néo-démocrate à l'époque, alors que lorsqu'on les retrouve au gouvernement, on nous dit, bien écoutez, c'est dans la procédure de nomination des juges à la Cour suprême qu'on prenne en compte leur capacité dans la seconde langue officielle, tout devrait bien aller à partir de là, on n'a pas besoin de faire du bilinguisme quelque chose d'obligatoire dans la loi. Et ce à quoi moi je rétorquerais, c'est très bien, vous êtes de bonne foi, vous allez chercher des candidats qui seront bilingues, mais pour une communauté qui s'avère être minoritaire démographiquement au Canada, d'avoir quelque chose d'enchâssé dans la loi sur la Cour suprême, c'est un garde-fou au final. Ce qui veut dire que lorsqu'on aura au Parlement canadien un gouvernement un peu plus réfractaire au bilinguisme, et ça s'est vu par le passé, on le reverra surtout bien évidemment dans le futur, eh bien, un gouvernement qui n'a pas cette sensibilité-là, eh bien, ils n'auront pas le choix.
Mmh. Alors, le parti néo-démocrate, vous savez, dans le questionnaire que l'AFO, l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, a envoyé, il parle même de l'Université de langue française proposée à Toronto, un mandat à l'échelle de la province. Le parti parle aussi de rendre l'Ontario officiellement bilingue. Est-ce que c'est réaliste tout ça?
Oui, donc ça, c'est un enjeu qui s'est invité dans le cadre de la campagne lorsque l'un des candidats néo-démocrates dans le nord de la province, là, M. Bourgoin, a un peu lancé ça en gros gens comme devant durant un débat, alors que Mme Horvath n'avait jamais, ne s'était jamais prononcée sur cet enjeu-là. Il semblerait qu'il y ait plusieurs députés ou candidats qui souhaitent devenir députés parmi le caucus néo-démocrate qui seraient ouverts à cette idée-là, à savoir si le Parti néo-démocrate irait de l'avant advenant une victoire au lendemain du 7 juin. Moi, je me permets d'en douter. Ça ne faisait pas partie de la plateforme officielle et c'est quand même une promesse qui pourrait être lourde de conséquences.
Mmh.
Par contre, c'est ce qui est intéressant, c'est de regarder, par exemple, les propositions qui ont été amenées par le commissaire aux services en français de l'Ontario dans son dernier rapport annuel. Il propose finalement d'avoir un bilinguisme en Ontario, un bilinguisme de facto, sinon de jure, au sens où toutes les régions désignées en Ontario français où les Ontariens ont droit à des services en français couvriraient l'entièreté du territoire ontarien. Donc, la province ne serait pas officiellement bilingue, mais dans les services qui seraient offerts à la population, on deviendrait plus ou moins bilingue.
Et le Canada est aussi dans ce grand débat pour reconnaître enfin les langues autochtones. Hein. Ça va être très intéressant. On ne veut pas rendre une des langues autochtones, il y en a 90, hein, c'est quand même beaucoup de langues, le rendre officielle, mais on veut quand même apporter... Je pense qu'il est temps qu'on comprenne un petit peu les langues autochtones, parce que ce sont les premières nations de ce pays. Quand allons-nous pouvoir apprendre la culture autochtone, les langues autochtones? Hein?
Oui, donc, le grand enjeu pour les langues autochtones, c'est qu'il y en a plusieurs parmi ces langues-là.
Non, en effet.
Ils sont tout près de l'extinction, en fait. Donc, ouais. Il est plus que temps qu'on agisse. Mmh. Le gouvernement, actuellement, avait promis de suivre les recommandations de la commission Vérité et Réconciliation, dont plusieurs des recommandations touchaient justement les langues autochtones et l'apprentissage, la possibilité de transmettre les langues autochtones aux futures générations. Il semblerait que d'ici aux prochaines élections, en 2019, nous pourrions nous attendre à voir un projet de loi qui vise les langues autochtones. Et pour le moment, ça reste encore sur la table à dessin.
Stéphanie Chouinard, Madame, Monsieur, très intéressant de parler avec vous. Vous êtes un gain pour la communauté francophone, enfin pour les médias aussi, parce que vous avez vraiment vous décortiqué en profondeur ces questions qui sont des fois très complexes pour les auditeurs et pour Monsieur, Madame, tout le monde. Je rappelle que vous avez plusieurs publications à votre actif. J'aimerais bien un jour vous inviter pour parler de ces publications, entre autres l'étude des petites nations par la lunette juridique, un exercice périlleux. C'est très intéressant, publié aux presses de l'Université de Montréal. Et il y a un autre que j'aime aussi, les tribunaux, lieu de pouvoir contre majoritaire, les minorités face au droit. Sauvons la justice, c'était publié à Montréal en 2017, très récemment. Alors, j'aimerais tellement vous inviter. Vous êtes d'accord d'être parmi nos correspondants, nos collaborateurs officiels à la
Bien sûr, ça me ferait grand plaisir.
Vous avez déjà voté?
Non. J'ai bien hâte d'aller voter le 7 juin. Moi, j'aime ça faire ça la journée 2. On a la possibilité de voir la démocratie en action. Donc,
alors, je demande à tous les étudiants, les professeurs, tous ceux qui sont avec nous au studio, de vous applaudir chaleureusement. Voilà. Et n'oubliez pas, madame, monsieur, citoyens, citoyennes, d'aller aux urnes le 7 juin. Merci beaucoup, Stéphanie. On se reparle très prochainement et bon dimanche.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonjour, citoyen. Bonjour. citoyens. Allons enfants de la démocratie, c'est un jour pour aller voter. N'oublions pas que la tyrannie par les urnes peut s'imposer à la jeunesse. Aux urnes citoyens, aux urnes citoyens, aux urnes, aux urnes citoyens.
Eh oui, les jeux sont faits. Le 6 juin prochain, mesdames, messieurs, les Ontariens, Ontariennes veulent autre chose. Nous allons tout à l'heure accueillir le président de l'Assemblée de la Francophonie. Ah oui, 600 000 membres, quand même, hein. Est-ce que vous, vous êtes un membre, madame, monsieur, de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario? J'aime pas le terme la faux. Non. L'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario. Monsieur Carole Jolin qui nous attend quelque part à Ottawa, je pense. Aux urnes, le 6 juin 2018, l'Ontario basculera soit vers l'extrême gauche ou l'extrême droite. Soyez-y. Et à ne pas oublier, madame, monsieur, jusqu'au 29 juin, la fièvre du vendredi soir au ROM, le musée royal de l'Ontario. Commencez vos vendredis soirs du bon pied et d'un bon œil aussi, pourquoi pas, parce que vous allez voir de très belles choses. On vous invite à aller danser au son des meilleurs DJ et des artistes indie. On vous invite aussi à explorer les galeries, déguster les petites bouchées et les boissons exquises que nous avons bien adorées vendredi soir. Et je vous invite justement vendredi prochain qui s'en vient, le 8, c'est un grand événement. On va célébrer la culture, la nature même du Canada, c'est-à-dire la culture autochtone. Vendredi prochain, au ROM, le Musée Royal de l'Ontario, dans le cadre du Mois National de l'Histoire Autochtone, en compagnie d'artistes autochtones contemporains lors de cette belle soirée. Plusieurs artistes, DJ Classic Roots, The Johnnies, Christy Lane Sinclair, et oui, joueuse de tambour à main traditionnelle. Ivan Redsky, ancien membre du groupe Rock Single Mothers, sélectionné pour un prix Juno, a lancé un micro-album intitulé Danny Wolf and Two Other Stories, qui représente trois points de vue autochtones distincts. Et Brent Diabo, né et grandi sur la réserve Mohawk de Kanawake, sur la rive sud de Montréal. Son plus récent album, Take Me Back, a été mis en nomination dans la catégorie meilleure chanson radio lors de l'édition 2017 des Indigenous Music Awards. Et en galerie, on vous invite à voir des belles peintures. Naomi Smith, perlage autochtone, artiste qui éduque le public sur le mode de vie et de la culture des peuples autochtones, des Woodlands et du Nord-Est d'un point de vue historique et contemporain à travers l'histoire des perles. Et Niall Johnson, membre des Chippewas de la Première Nation de Nawash depuis sa naissance, artiste qui dessine et peint des récits Anishinaabe afin de sensibiliser le public à la culture de cette grande nation. Et d'ailleurs, justement, aujourd'hui, au centre Harbourfront de Toronto, tenez-vous bien, il y a la mode autochtone au rendez-vous. Toute la journée aujourd'hui, ça se termine ce soir. Je vous invite d'aller voir de très, 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 très beaux vêtements des artistes de mode autochtones. Aujourd'hui, toute la journée, madame, monsieur, il y aura aussi plusieurs artistes à ne pas rater dans le cadre de cette reconnaissance de la culture, de la richesse et de la mode autochtone.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Imagine you're walking along a tropical beach after an exciting day exploring one of the world's most beautiful rainforests. Well, you can turn this dream into a reality. CIUT 89.5 FM is giving away a trip for two to Capos, Costa Rica during our Sound of Your City Spring Drive. All you need to do is become a member to enter in the draw. Stay tuned or visit www.ciut.fm for more details.
Hello everyone, my
my name is Duncan Fremlin and I play banjo in the Toronto band Whiskey Jack. I'm here to tell you about a special radio broadcast that I'll be hosting here on CIET-FM. The date is Tuesday, June 12th from noon to 2 p.m. The show is called Canadian Country Music Legends Live. My special guests for the 2 hours will be one of the best Canadian country bands ever, the Good Brothers. There'll be lots of music, crazy stories of their time with Janis Joplin and the Grateful Dead on the Festival Express, and much more. That's Tuesday, June 12th, noon to 2 p.m. Now it's women's me.
CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.potpourrishow.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
C'est la femme de ma vie. On a été mariés 15 ans. Et puis Jean-Marc, voilà, c'est mon mari aujourd'hui.
48 heures avant.
Vous ne saviez pas que vous étiez potentiellement homosexuel.
J'avais téléchargé quelques photos de beaux jeunes hommes qui me plaisaient plutôt bien. Et bien sûr, lorsque mon beau-frère a récupéré les données, voilà.
Un soir, mon fils aîné me dit « Tu rentres pas tous les soirs, donc comment elle s'appelle ?» Et je lui ai répondu « Elle s'appelle Olivier. » Il y a eu un blanc.
Moi, je me suis dit, mais je vais faire éclater une famille. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment ça va se passer? Et c'est là que, en l'annonçant, tu m'as dit dans le creux de l'oreille.
Je serai bien ton témoin, si tu veux bien.
Vous avez été leur témoin de mariage?
Oui.
Alors là, moi, je dis ça pour.
Et oui, mois de juin, mois des fiertés. Potpourri Show vous souhaite de très joyeuses fêtes arc-en-ciel. Et oui, les jeux sont faits, le 6 juin prochain, les Ontariens, Ontariennes veulent autre chose. Eh oui, quelle est cette autre chose, selon certains auditeurs qui étaient présents au débat en français le 29 mai dernier? Ils sont restés sur leur faim. Les dossiers de la santé en français, l'immigration francophone et les enjeux économiques n'ont pas été abordés en profondeur. Est-ce qu'ils ont raison? Dans un instant, nous continuons notre débat, madame, monsieur, avec monsieur Carole Jolin, président de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, l'association qui représente 600 000 francophones en Ontario. Il est aussi l'ancien président de l'Association des enseignants franco-ontariens. Et vous, avez-vous fait votre choix? Connaissez-vous bien en profondeur les programmes des trois grands partis? Eh oui. Pour qui allez-vous voter le 6 juin prochain? Le 6 juin 2018, l'Ontario basculera peut-être vers l'extrême gauche ou l'extrême droite. Qui sait? Soyez-y! CUT, Potpourri, 30 ans déjà. Avec
RFI, toute la diversité du monde.
À 4 jours du scrutin, la première ministre sortante et chef du Parti libéral, Catherine Wynne, a annoncé hier qu'elle croit que son parti ne formera pas le prochain gouvernement. Elle a aussi appelé les électeurs à voter pour le plus de députés libéraux possible pour éviter un gouvernement progressiste, conservateur ou néo-démocrate majoritaire. Passons à la loupe dans un clin d'œil, l'engagement des deux autres partis principaux, le NPD et le PC. Nous allons en discuter tout à l'heure avec notre invité qui nous attend. Et oui, dans un instant, mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir monsieur Carole Jolin. Il était, je pense, au débat organisé par Radio-Canada et le groupe Média TFO cette semaine. Débat en français. Et vous, y étiez-vous?
Chers franco-ontariennes et chers franco-ontariens,
Aujourd'hui, la première ministre de l'Ontario s'est rendue chez la lieutenant-gouverneure pour lui demander de dissoudre la 41e législature et de déclencher une élection générale. Au cours des prochaines semaines, les candidates et les candidats seront appelés à se prononcer sur plusieurs enjeux touchant votre quotidien. Économie, santé, éducation, et j'en passe. Comme membres de la plus grande communauté francophone hors Québec, nous avons le devoir de nous assurer que les enjeux liés à notre langue et à notre culture soient soulevés lors de la campagne électorale. Nous devons travailler à ce que les partis prennent des engagements pour l'épanouissement de nos communautés. Ce travail, je ne peux pas le faire seul. Pour ce faire, j'ai besoin de vous. Questionnez les candidats.
Et madame, monsieur, je vous demande d'accueillir monsieur Carole Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'association qui représente 600 000 francophones en Ontario. Il est aussi l'ancien président de l'association des enseignants franco-ontariens. Ah oui. Allez, installez-vous. Bonjour monsieur Jolin, ça va?
Ça va très bien, et vous?
Oui, ça va. Est-ce que vous étiez surpris hier quand madame Wynne a jeté l'éponge, reconnaissant que le Parti libéral va vers une défaite?
C'était une sortie plutôt inhabituelle. Je tiens compte, par exemple, des campagnes précédentes ou des gouvernements précédents. C'était un petit peu surprenant, mais j'imagine que dans son entourage, il y a des stratagèmes qui ont pesé le pour et le contre de tout ça et puis qui ont décidé d'aller dans cette voie-là.
Oui. Tout le monde était pris par surprise, je pense, hein. Et vous avez lancé un petit questionnaire aux trois grands partis de l'Ontario. Et cette fois-ci, ils ont répondu à temps, à l'heure juste, comparable aux années précédentes. Parlez-nous un petit peu justement des retrouvailles, leurs réponses, leur état d'âme, leur esprit, leur engagement face à la communauté francophone de l'Ontario.
Bien, tout d'abord, on a envoyé un questionnaire de 14 questions à tous les partis. Et puis, c'est une première qu'on a reçu des réponses de tous les partis. Mm-hmm. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et dans ces questions-là, évidemment, on voulait s'assurer que les enjeux francophones seraient de la partie pendant la campagne électorale. On voulait s'assurer que les enjeux francophones soient bien connus des candidates et des candidats. Notamment le dossier de l'Université franco-ontarienne, un dossier qui nous tient extrêmement à cœur. C'est un dossier qui a vu la création légale de l'université tout juste avant les fêtes. Il y a à peu près 6 semaines, un conseil de gouverneurs a été nommé pour mettre l'université en place. Et on veut s'assurer que le dossier continue de progresser régulièrement pour qu'on puisse en arriver à une ouverture comme prévu en septembre 2020. Mmh. Donc ça, c'est un des dossiers sur lequel on a mis beaucoup de qui était prioritaire, si on veut dire. On a parlé beaucoup de la modernisation de la loi sur les services en français. Donc, on travaille toujours pour avoir davantage de services gouvernementaux en français. On sait qu'on a déjà en novembre 2016, la ministre des Affaires francophones s'était engagée à moderniser la loi. Malheureusement, on ne s'est pas rendu là. Et puis, nous, on a fait la demande que dans la lettre de mandat de la prochaine ou du prochain ministre des Affaires francophones, que ça fasse partie de la lettre du mandat de la personne qui prendra les rênes.
Mmh. Alors, pour le parti nouveau Parti démocrate de l'Ontario, je pense ils veulent tenir une consultation sur la modernisation de la loi sur les services en français dans le domaine juridique et celui de la santé, ça c'est une première, et aussi ils parlent de faire en sorte que 5% des immigrants ontariens soient des francophones, et je pense que ça fait depuis longtemps que vous poussez pour que justement les gouvernements adopte cette recommandation. Tout le monde parle de 5% des immigrants ontariens francophones depuis très longtemps, hein. Mais dans la pratico-pratique, ça s'est jamais fait. Et donc, eux, ils ont pris cet engagement. Est-ce que vous êtes plus penché vers le nouveau Parti démocratique face à leur engagement, leur promesse aux franco-ontariens?
La promesse de 5% est une promesse et est un objectif qui date depuis 2012. Malheureusement, on était loin de là. Comme c'est long, on est à peu près à 2,4%. Mm-hmm. Et puis, c'est ce qui a fait que l'Assemblée de la francophonie a publié l'an dernier un livre blanc sur l'immigration francophone. On a parlé de ce livre blanc-là avec tous les partis lors de séances de journée de lobbying à Queen's Park. Et tous les partis voit la nécessité justement de s'engager pour atteindre cet objectif-là. Donc, c'est pas simplement le NPD, c'est un objectif que tous les partis partagent, tout comme celui de la modernisation de la loi sur les services en français et le dossier de l'université francophone.
Mais vous dites que pour les conservateurs, d'après les journalistes, les critiques en politique, les analystes politiques, ils disent que le Parti conservateur donne peu de précisions sur les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour les francophones.
Ben, nous, on a eu des discussions informelles avec des candidats, des candidates et avec M. Ford pendant la course à la chefferie. Et ce sont des dossiers sur lesquels il s'est engagé à poursuivre le travail qui avait été amorcé dans le cas de l'Université de l'Ontario français. Et la modernisation de la loi sur les services en français, ça fait l'unanimité parmi les trois partis.
Mmh. Et nous allons entendre un extrait de ces échanges musclés, corsés entre les candidats et la principale cible de la soirée lors de ce débat. Est-ce que vous y étiez au débat de cette semaine?
Oui, j'étais à Toronto.
Alors la ministre sortante des Affaires francophones, Marie-France Lalonde, qui a dû défendre le bilan de son parti en matière francophone, et Gilles Bisson, député néo-démocrate dans le nord de l'Ontario, candidat dans la circonscription de Timmins, n'a pas manqué à mettre Mme Lalonde au pied du mur, et celle-ci était visiblement mal à l'aise et a fait des pirouettes. Écoutons.
Juste avant les élections, dit « Oh, peut-être on a besoin de changer la loi 8. Vous êtes là, ça fait 15 ans. Pourquoi vous l'avez pas fait? »
Donc, M. Bisson, je vais juste peut-être vous parler, parce que peut-être vous avez pas suivi ces dossiers aussi bien que peut-être d'autres. Mais je vais juste vous parler. On a fait une création au poste de sous-ministre adjoint responsable des services français. Une
la question
demande de
c'était,
la je vais
pourquoi
juste vous,
vous
dire
avez
qu'est-ce qu'on va faire
sur
pour
la
vous,
loi
chers amis.
8.
Carte santé, une variable linguistique francophone pour capter les données. 500 lits, 500 nouveaux lits francophones. Je sais qu'on a besoin.
On
j'étais
ne parle
à Welland, à Ottawa.
Vous n'êtes pas intéressé?
Définitivement, je suis intéressée. Comme le Carrefour Santé Timmins qu'on vous a annoncé.
Quand tu ne peux pas aller chercher
de
des services en français d'un comté comme le sien ou le mien,
est-ce que
y a
vous
un
comprenez
problème?
Le processus de désignation,
Madame,
monsieur?
Je suis très...
La question, je vous le rappelle, c'est comment augmenter les soins
exactement.
De services en français.
Exactement.
Allons en votre solution, monsieur Bisson.
C'est le premier point. C'est qu'on a besoin de renforcer la loi 8.
Eh oui. Quelle est votre réaction, M. Carole Jolin?
Ça va être un échange intéressant. Et puis, c'est de bonne guerre dans un débat, justement, que ce type d'échange-là ait lieu. Mm-hmm. Et puis, c'est officiel qu'initialement, Mme Lalonde avait annoncé cette réforme-là lors du 30e anniversaire de la loi sur les services en français dans le cadre d'un colloque qui avait été organisé. Et comme ça ne s'est pas concrétisé par le temps qu'on se rend aux élections, ben c'est à peu près normal que les partis de l'opposition à ce moment-là ou les deux autres partis ne manquent pas l'occasion de souligner le sujet.
Oui. Vous savez, comment expliquer que les libéraux, il me semble qu'ils ont fait pas mal pour les francophones. On pense à 400e anniversaire, c'était fait en fanfare, des déclarations, ils ont appuyé toutes sortes de programmes pour la francophonie. On siège même maintenant comme observateur au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. L'Ontario, tenez-vous bien, à un siège, madame, monsieur, comme observateur. Et comment expliquer que... Maintenant, les francophones tentent à délaisser ce parti, que l'électorat s'en fout un petit peu de ce parti, parce que ça risque d'être vraiment catastrophique pour le Parti libéral, jeudi.
Ben, ce que les gens vont dire, et puis c'est souvent l'usure du pouvoir.
Ah.
Ça fait 15 ans que les libéraux sont au pouvoir, et puis d'un mandat à l'autre, on dirait qu'à un certain point, les gens aiment le changement, les gens veulent du changement. Et puis, parce que comme vous l'avez mentionné, il y a de nombreux dossiers francophones qui ont avancé dans les dernières années, notamment dans les derniers 18 mois. Il y a plusieurs dossiers qu'on a pu faire progresser de façon très significative. Maintenant, il semble que les gens veulent un changement d'après ce qu'on entend dans les sondages. Et nous, comme organisation non partisane, on va travailler avec le parti qui va être là. Et sûrement qu'il va y avoir beaucoup de travail d'information, de s'assurer que les gens comprennent bien les dossiers, tout le travail qu'on avait fait auparavant, évidemment, avec le parti au pouvoir, pour s'assurer que les gens comprennent bien les dossiers et aient la volonté de les faire progresser pour le bien de la communauté francophone.
Est-ce que vous avez un consigne à donner à vos chers membres, les 600 000 personnes de la province?
Ben, nous, ce qu'on a fait et ce qu'on va continuer à faire, premièrement, on a publié les réponses des 14 questions des trois parties sur le site web de l'Assemblée de la francophonie. Vous pouvez les retrouver à monassemblée.ca dans la section Action politique. Et demain, nous allons publier une abrégé de ces questions-là pour chacun des partis. Donc, comment on voit la plateforme des francophones pour chacun des partis. Et ce qu'on demande aux gens, c'est de regarder ces documents-là, de s'assurer de comprendre les enjeux. Et puis, après ça, bien, extrêmement important, d'exercer leur droit de vote. On a également démarré sur Twitter à mon clic, mon vote franco. C'est une occasion de publier en français sur Twitter sur les enjeux pour la francophonie.
Et qu'est-ce que ça vous dit si on a un premier ministre ou une première ministre qui ne parle pas un mot en français? Est-ce que c'est un désavantage pour les francophones?
Ben pour nous, c'est de s'assurer qu'ils comprennent bien les enjeux. Mm-hmm. Et le premier ministre ou la première ministre est une personne. Maintenant, il y a tout l'entourage parce qu'on a toujours demandé, suite à... c'est M. Brown qui avait débuté ça en ayant une personne francophone dans son bureau. Et on a demandé, et on demande maintenant aux trois partis d'avoir un lien, une personne en communication pour pour les communications avec la communauté dans le bureau du chef du parti ou de la chef du parti. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et ensuite, on travaille toujours avec là où le ministre des Affaires francophones et les critiques des deux partis. Donc du côté francophone, on est toujours bien situé, bien placé pour pouvoir rejoindre les gens à la tête du parti.
Oui. Alors, sur le site de Mon Assemblée, madame, monsieur, allez sur le site monassemblée.ca. Vous pouvez devenir membre, connaître un petit peu les enjeux de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et aussi découvrir un peu les membres qui représentent vos intérêts dans les régions. Et il y a ce slogan « Bonjour, welcome ». Plus d'informations sur ce projet « Bonjour, welcome » de votre part qui dit « Saviez-vous que 1,500,000 personnes parlent le français en Ontario ?» Et vous dites sur votre site, vous en faites partie. Alors, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et ses partenaires vous invitent, madame, monsieur, à vous faire connaître et à marquer votre présence en demandant à être servi en français chez votre épicier, dans vos restaurants favoris et dans tout autre commerce que vous fréquentez. Vous êtes chef d'entreprise, faites partie du mouvement en offrant des services bilingues, car les avantages sont nombreux. Vous pourrez attirer et fidéliser une nouvelle clientèle, augmenter vos revenus et courir la chance de gagner de la publicité gratuite. C'est très intéressant ce projet, hein? Est-ce que ça marche?
Extrêmement, oui. Il y a des régions entières qui ont adopté le projet parce que c'est un projet qui visait les commerces et pour les inciter à faire de l'offre active. Et il y a toute une trousse qui leur permet justement de se former à ça et de comment le faire et comment l'afficher. Et puis, c'est bon pour les affaires.
Oui.
Si j'entre dans un commerce et puis qu'on me salue dans les deux langues, ça veut dire qu'on est capable de m'offrir un service en français.
Oui.
Et puis, pas plus tard qu'il y a à peu près un mois, j'étais à Toronto et on a découvert que la serveuse au restaurant qui nous servait parlait très bien français. Puis je lui disais, bien, de faire de l'offre active et puis ça met les clients à l'aise. Les gens sont heureux d'être servis dans leur langue.
Mais,
et puis que ça peut paraître sur le pourboire.
Exactement. J'étais à un événement qui s'appelle la fièvre du vendredi soir et non la fièvre de samedi soir au Musée Royal de l'Ontario vendredi dernier. J'ai été agréablement surpris de voir beaucoup de francophones et leurs sites, leurs dépliants, tout est fait dans les deux langues officielles du Canada. Je trouve ça formidable et d'ailleurs ils ont eu beaucoup beaucoup de succès. Alors je rappelle aux gens que vous pouvez devenir membre de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, être membre actif. Je rappelle que vous avez actuellement 216 membres individuels, 146 membres associatifs et 33 membres institutionnels. Vous faites un travail extraordinaire. Vous savez, en 30 ans de carrière, 35 ans de carrière, M. Jolin, c'est très rare que je rencontre des personnes de votre niveau, de votre gabarit, qui prennent le temps pour venir nous parler, décortiquer l'événement francophone, les enjeux francophones, la politique des franco-ontariens, des francophones, des affaires francophones. Et je dois vous dire un grand merci de la part de tous les auditeurs, les professeurs, les étudiants qui sont avec moi, parce que vous êtes vraiment un homme passionné, mais engagé pour la francophonie. J'espère qu'on vous garde longtemps, longtemps parmi nous, parce que vous faites un travail formidable, et je demande à tout le monde de vous applaudir chaleureusement. Voilà.
Bien, merci, c'est un plaisir.
Et oui, et on se repart. Et on se reparle après le 6 juin. D'après vous, est-ce que vous avez une petite boule de cristal? Est-ce que vous pensez...
Très difficile à ce moment-ci, parce qu'il reste encore quand même un petit peu de temps. Mmh. Et puis, il y a des choses qui vont sortir dans les derniers jours, comme toujours. Les stratagèmes de chacun des partis ont quelque chose dans leur manche, pour nous, c'est certain. Alors, je vais attendre les résultats avec anxiété, et après, pour nous, le travail va débuter.
OK, merci beaucoup, Monsieur Carole Jolin. Et bien le bonjour à toute votre équipe.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Démocratie, c'est un jour pour aller voter. N'oublions pas que la tyrannie par les urnes peut s'imposer à la jeudi. Aux urnes, citoyens, aux urnes, citoyens, aux urnes, aux urnes, aux urnes, citoyens. Ces électorales campagnes mugir de stupides constats. Dans la bêtise, propage le climat. Le peuple dans nos villes, une campagne à l'eau que j'ai. Aux urnes, nos citoyens. Aux urnes, nos citoyens. Aux urnes, aux urnes, aux urnes, nos citoyens. Enfants de tout pays, allons ensemble, frères et sœurs, combattre pour la liberté chérie, combattre avec ses défenseurs. Alors encore je dis, aux urnes, nos citoyens, aux urnes, nos citoyens, aux urnes, aux urnes, aux urnes, nos citoyens. Pour notre salut, aller voter doit être notre guerre. Cette guerre est notre vertu. Alors encore je dis, aux urnes, citoyens, aux urnes, citoyens, aux urnes, aux urnes, aux urnes, citoyens, aux urnes, citoyens, formez vos bataillons, écoutons, analysons, votons.
CIUT FM continues to be the sound of your city. Of course, we can't do it without your generous support. Our spring membership drive starts on June 4th, but donate before then and you'll be eligible for numerous early bird prizes, including a bike courtesy of Urbane Cyclists, tickets to see Mavis Staples live at Massey Hall, and more. Visit www.ciut.fm to donate.
CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Le 21 juin. De la musique.
Eh oui, Poupourri Show vous donne rendez-vous, madame, monsieur, le 24 juin pour une émission spéciale célébrant la fête de la musique. Je vous rappelle que la première fête de la musique s'est déroulée en 1982 après l'élection du président de la République française, François Mitterrand, et à l'initiative du ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang. Et la première édition de cette soirée était un tel succès en France qu'elle s'est peu à peu internationalisée dans le monde, et aujourd'hui on compte près de 100 pays qui célèbrent la fête de la musique. Et le thème de cette année à l'émission Musique du Monde, cette année Poupourri Show donne la parole aux artistes, aux créateurs d'ici et d'ailleurs, une émission en partenariat avec Radio France Internationale et le Consulat Général de France à Toronto, et des artistes, auditeurs, auditrices de la région d'ici, de Toronto et du monde. Alors vous, qu'est-ce que vous faites lors de la fête de la musique? C'est le 21 juin, mais nous on va le fêter ici en onde parce que c'est dimanche, le 24 juin. Vous souhaitez y participer? Répondez s'il vous plaît avant le 4 juin, donc demain ou après-demain, à popori@cut.fm.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand je t'ai dit que j'aimais les garçons?
Je l'ai ressenti, ouais, comme une trahison, et ça m'a éloigné de toi.
Au sommaire de ce numéro de toute une histoire...
J'ai fait mon coming out, ça n'a pas été forcément évident, j'ai eu le droit aux insultes.
Votre mère, elle vous a dit quoi?
Arrête, je vais vomir.
Quand ils ont enfin osé faire leur coming out, nos invités ont été rejetés par leurs proches.
J'avais l'impression d'être la honte de la famille. Ça a vraiment été vraiment difficile.
C'est comme si c'était plus mon petit garçon.
J'ai essayé de m'expliquer, mais il était assez fermé sur le sujet.
Mais depuis quelque temps, ils ont retrouvé leur place à leur côté.
Quand je t'ai vu à l'hôpital, allongé sur un lit, branché de partout, on nous a dit que t'étais passé à deux doigts. J'ai mis ma fierté de côté.
J'ai regardé ce garçon et je me suis dit, waouh, quel beau garçon, il irait bien avec mon fils.
Je suis super content que tu m'acceptes comme je suis.
Et oui, le 17 juin, ne pas rater, depuis 30 ans, Poupourri Show est fier de participer à la fête de la diversité sexuelle en proposant des émissions rendez-vous avec des têtes d'affiche et membres engagés dans la communauté LGBTQIA. Et cette année, nous allons traiter les LGBTIQIA-phobies. Il y en a beaucoup et ça demeure toujours, malheureusement. Elles sont toujours ancrées dans le quotidien et se rencontrent dans le cadre de la famille, de l'emploi ou encore des loisirs. Vous souhaitez parrainer ou participer à nos émissions, surtout l'émission du 17 juin prochain, envoyez-nous immédiatement un message d'intérêt à popourri.cut.fm.
Si j'ai plus de cours que celle de mon plus beau sourire, si mon regard se trouble quand j'ai le goût de séduire, j'aimerais toujours plaire au regard des plus capricieux. Mais mon point de repère, ce n'est pas une grandeur de lure. Dis ce que je pense, je pense ce que je dis. Laisse faire les apparences, je mords dans la vie. Je dis ce que je pense ce que je dis. Laisse faire les apparences, je mords dans la vie. Ce n'est pas un secret, la mode est de mettre capricieux. Elle n'a rien de parfait, que des mensonges et des pièges dangereux. Faut se le dire, le poids d'une femme ne se mesure pas en grammes. Je veux m'épanouir, la plus belle fleur sera toujours celle de mon âme. Dis ce que je pense ce que je dis. J'espère les apparences, je mords dans la vie. Je dis ce que je pense ce que je dis.
Please.
j'admire, c'est une sans compromis avec Atlan. Dis ce que je pense, tu penses ce que je dis, j'espère les apparences, je mords dans la vie. Je dis ce que je pense ce que je dis, j'espère les apparences, je mords dans la vie.
Oui, c'est Julie Kim, la francophone de la région de Toronto qui vient de lancer un dernier album très 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 intéressant. Julie Kim, un artiste que vous allez entendre régulièrement à l'antenne. Et là, nous sommes avec un groupe assez intéressant et je vous invite d'écouter ce groupe qui marque la fête de la musique cette année. La mode autochtone à la croisée des générations au Centre Harbourfront de Toronto, madame, monsieur. Aujourd'hui, cela vous tente, allez faire un tour. Ces communautés autochtones qui regorgent de talents émergents. Et cette semaine leur donne l'occasion de vendre et montrer leur art, non seulement aux autochtones, mais aussi à des non-autochtones qui n'ont peut-être jamais vu l'art authentique de cette communauté. On voit ça souvent de l'art fake. Eh oui, et ça, c'est du real deal, nous dit-on. Ce genre d'événement permet d'amorcer une conversation sur la communauté autochtone, sur les traditions, sur les richesses de l'art autochtone. Les défilés sont organisés durant cette fin de semaine sur la mode autochtone au Centre Harbourfront de Toronto, la mode autochtone à la croisée des générations au Centre Harbourfront, aujourd'hui, toute la journée. Mesdames, Messieurs, voilà notre chanson, musique plutôt, qui nous donne un aperçu de ce qui va se passer dans quelques minutes parce que nous sommes arrivés presque à la fin de cette course à la direction de qui va l'emporter le 7 juin prochain. Bonjour mon cher ami.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
Alors ici on a un revenant, Mesdames, Messieurs, il est ressuscité. Il est en pleine forme, parce qu'on ne vous a pas entendu pendant quelques temps, et les gens se demandaient, mais où est passé Sloan Ballon? Et il s'est balancé à gauche, à droite,
partout,
par devant, en arrière. Ça va?
Très bien, très bien.
Alors vous prenez le grand vol pour Haïti?
Oui, ce sera durant la semaine prochaine.
Mm-hmm.
Donc, on va vous commencer,
mais...
ça fait quelques temps. Donc... J'espère ne pas retourner avec les larmes aux yeux seulement.
Oui, c'est pas toujours facile de retourner dans son pays natal, surtout quand ça ne va pas très
justement.
Bien. Il y a eu, on le sait, quelques cas de violence.
Oui, malheureusement, les nouvelles, ça fait mal. D'ailleurs, si on écoute seulement les nouvelles, on ne s'en sera jamais à Haïti.
Mm-hmm.
Donc, mais bon, je connais la réalité de mon pays et je dois m'y faire. Quoi.
Oui. Alors, vous travaillez très fort, vous allez passer l'été quand même ici, vous partez pour combien de temps?
Ah, 2 semaines seulement.
Ah, 2 semaines, pas 2 mois?
Non, pas du tout.
Quelqu'un m'a dit que vous partiez pour 2 mois.
2 mois? Peut-être dans 5 ans.
Non, 2 mois, vous partez 2 mois.
Ah non, pas du tout.
Vous restez avec moi.
Bien sûr.
Ne partez pas 2 mois. 2 semaines, ça va.
Ça va.
Alors, justement, du 4 au 10 juin, donc à partir de demain, la radio communautaire de Toronto, c'est la plus grosse radio communautaire de Toronto avec 15 000 watts, madame, monsieur, qui est située sur l'immeuble de la Banque de Montréal à Toronto. Et non à Montréal. La Banque de Montréal à Toronto, 15 000 watts. Nous sommes là depuis 30 ans. Et grâce à une faible contribution monétaire des étudiants de l'Université de Toronto, la radio a un budget qui doit compter, heureusement ou malheureusement, de ses auditeurs, ses auditrices. Et c'est aussi un genre de barème, pas électoral, mais plutôt pour voir un peu l'intérêt des auditeurs face à nos émissions, face au son de la radio. Le son de votre ville, the sound of your city, comme on dit, le slogan. Et vous avez appelé quelques personnes?
Oui.
Ils sont allés à la messe ou bien
oui,
ils sont dans les champs?
Justement, certains sont à l'église, d'autres dorment encore apparemment.
Oui. Ou d'autres dans les champs.
Bien sûr, il fait beau dehors.
Il fait beau dehors, oui. Alors, pourquoi c'est important que les gens contribuent à notre émission?
Déjà, c'est pour nous montrer leur attachement à l'émission. Et aussi de faire en sorte que nous gardons l'antenne, déjà. Donc, c'est un peu ça.
Mais, et nous sommes la seule émission en langue française. Et je dois dire ici, peut-être, c'est pas un secret pour personne, dans le passé, l'Université de Toronto, le département d'études françaises, nous offrait quand même ou payait certaines dépenses, comme par exemple les téléphones outre-mer. Des fois, on doit donner des jetons à certains invités ou encore des étudiants qui viennent faire du bénévolat avec nous. Ou encore organiser des rencontres, des soirées, causeries, repas.
tout ça. Et maintenant, et la publicité aussi, hein, monter des publicités, tout ça, ça coûte des sous. Et malheureusement, ils ont de nouvelles directives et on ne peut pas se parer pour le moment, hein, compter sur les départements, ce qui est très, 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 très dommage, parce que cela nous aidait grandement dans le passé. J'espère que ça va se rectifier. Donc, plus que jamais, notre émission, madame, monsieur, compte sur vous. Les organismes communautaires qui contribuent comme Reflet Salvéo et d'autres encore, nous sommes grandement, grandement reconnaissants parce que grâce à vous, nous pouvons avoir des émissions de qualité et aussi les téléphones qu'on fait à travers le monde pour vous. Les gens adorent savoir ce qui se passe en Haïti, par exemple, à l'île Maurice, en Afrique, en Europe, et ça coûte des sous. Et donc, il y a l'hydro, l'électricité, hein, le téléphone, et aussi on a 4 personnes qui travaillent à plein temps ici, à la radio, pour garder cette station en bon terme avec les lois du gouvernement fédéral, le CRTC. Et donc, plus que jamais, madame, monsieur, nous avons besoin de vous. On a retardé cette année parce que nous sommes dans les rénovations, comme vous voyez, au studio ici. D'habitude, on a notre levée de fonds au mois d'avril. La levée de fonds printanière, comme on dit, mais cette année, ça se passe plutôt à l'été. Donc, d'ici jusqu'à dimanche prochain, on lance un appel à votre générosité et aidez-nous. Je sais que vous allez le faire. Nous avons une liste de personnes qui ont déjà contribué dans le passé. Vous pouvez téléphoner immédiatement, par exemple, et parler à Sloane Ballant avant son grand départ pour Haïti. Ne vous en faites pas, il reviendra dans 2 semaines et non pas dans 2 mois. Et oui, 86-946-7000, madame, monsieur, aidez-nous à garder l'antenne. Et nous avons quelques nouvelles de la part de nos... Vous allez voter comme ça?
Non, malheureusement pas encore.
Mais vous pouvez voter aujourd'hui, moi je l'ai fait hier.
Ah, vraiment,
ouais. Vous avez aimé ce que les invités ont dit?
Ah, justement, justement. Déjà, je trouve que c'est un grand paradoxe déjà d'avoir un Premier ministre qui ne serait pas capable de parler français, mais qui connaisserait vraiment les causes de la francophonie, ou d'avoir un Premier ministre qui pourrait parler français, mais qui se détache complètement de cette francophonie-là.
Oui. Je trouve ça un peu dommage pour Mme Lalonde et tant d'autres... pour le Parti libéral en général, y compris Mme Wynne qui parle français, baragouine un peu, mais elle parle français, elle comprend bien les enjeux de la francophonie. J'ai eu l'occasion, moi, de la rencontrer à plusieurs reprises, en différentes fonctions. Je trouve ça dommage qu'elle jette l'éponge et que le parti risque de ne pas exister, de ne pas avoir les sièges voulus, plus de 8 sièges, au Parlement de l'Ontario jeudi. Ça risque même de faire, peut-être, causer la disparition du Parti libéral.
Parce que là, on fait face un peu à 2 extrêmes, malheureusement.
Et M. Ford, que pensez-vous de ce... pour dire ce jeune homme.
Ce serait de longs commentaires. Donc
Mais il attire quand même, c'est tous les hommes. Les hommes l'aiment bien, pas tellement les femmes, mais les hommes. Alors, je vous rappelle, madame, monsieur, que Ciné Franco est fier de co-présenter avec le Festival du film italien du 14 au 22 juin le film Dalida le 18 juin à 20h45 au cinéma Cinéplex à Vaughan. Allez sur le site de cinéfranco.com pour tout savoir. Et le 17 juin, nous célébrons la diversité sexuelle avec à la Marche des Fiertés, Toronto Pride. Si cela vous intéresse, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne vous invite à une conférence extraordinaire qui parle de l'équité, l'inclusion, cheminement au travers de l'école avec des intervenants tels que Diane Farmer, Jeff Gugler, Myriam Greenbalt, Emmanuel Da Silva, Christine Connolly, Gabriel Breton-Carbonneau et Aaron T. Le 19 juin à OISI à 18h, allez sur le site de Il faut répondre, par exemple, hein, l'Université de Toronto, OISI, madame, monsieur, à ne pas rater. Et enfin, je remercie tous ceux et celles qui ont participé à l'émission, entre autres, mon cher ami, merci et revenez-nous, hein. Venez nous voir. Merci à DJ Devera, Carole Jolin, Stéphanie Chouinard, Radio France Internationale, Journal Express de Toronto. Allez voter, c'est votre devoir de citoyen, madame, monsieur. Je vous dis bon dimanche et bonnes élections. Au revoir.
Danny Dance, one, tu dépenses 50 000, ça y est.